Ça va le monde ?
Non, ça va, ça va.
Ça va ? Ça va le monde ?
Ça va le monde !
Ça va ? Ça va le monde ?
Ça va ?
Ça va le monde !
Ça va le monde !
Ça va le monde ! RFI vous invite à un cycle de lecture organisé en coproduction avec le Festival d'Avignon, la compagnie Utopia, soutenue par la SACD et l'Institut français. Pascal Paradou.
Le Festival d'Avignon 2023 fut une belle édition, tout comme le cycle de lecture de RFI qui nous permet, vous permet, de découvrir des auteurs du continent. Je dis auteur, je devrais dire autrice, car Pierrette Mondaco est la troisième femme cette année dont on découvre le travail avec ce texte « Un instant d'éclat ». Inspiré d'un fait tragique survenu voilà 11 ans à Brazzaville, ou comment un choc laisse des séquelles dans la vie des gens, dans la vie d'une famille, malgré des indemnisations importantes, l'argent ne répare à rien. Un instant d'éclat avec Clémence Boissé, Pierre Lefebvre Adrien, Sabine Pacora, Tadier Touéné et Limia Vite, dirigée par Armel Roussel, assistée de Romain Sinter, création musicale Pierre-Alexandre Lampert, un texte proposé par les Francophonies des Écritures à la Seine et par la Maison des Auteurs de Limoges, où Pierrette Mondaco a fait une résidence.
Les Brazzavillois ont été en émoi hier dimanche en matinée. Une agitation causée par des détonations provenant du dépôt d'armement des forces armées congolaises à Pila. Cette tragédie qui a occasionné d'importantes pertes matérielles et humaines n'a pas laissé indifférent le président de la République et son gouvernement qui promptement se sont rendus dans les hôpitaux pour mesurer l'ampleur de la situation.
À savoir l'explosion d'un dépôt d'armement des forces armées congolaises dans le quartier de Mpila et qui a causé la mort de plus d'une centaine de Congolais, soit 146 décès au moment où nous parlons, sans oublier les dégâts matériels.
Moment trouble. Dialogue 1. Dans une rue, la nuit, une fille. Elle a un regard perdu. Elle semble chercher quelqu'un avec abattement. Il fait sombre. Un garçon. Il parle seul et a une allure pressée. Ils se croisent tous les deux. La fille se cogne contre le garçon.
Hé ! Tu vois pas où tu marches ?
Ah !
Elle veut partir, mais le garçon l'attrape par le bras.
Tu plantes ton coude dans mon œil et tu t'en vas sans faire d'excuses ? T'as des yeux dans le tibia ou quoi ?
Je suis désolée.
Désolée ? C'est tout ce que tu as à
mais
dire.
Mais j'ai pas.
Et merde ! Oh non, il manquait plus que ça.
Il regarde le sol attentivement, bien qu'il fasse très sombre.
C'est quoi ?
Tu as un portable pour éclairer.
T'as perdu quelque chose ?
J'ai perdu plus qu'une chose.
Plus qu'une chose ?
Oh, je vais lui dire quoi, moi ?
Je suis vraiment...
Le portable !
Il tend sa main vers la fille.
Si tu avais une mère hystérique comme la mienne, tu ne prendrais pas cette peine de me dire « Je suis vraiment désolée ».
La fille lui tend un portable dont la luminosité est très faible.
Je n'arrive pas à bien voir, pourtant. Un billet de 2000 francs serait visible dans ce noir.
T'as perdu de l'argent ?
Non, bien plus que de l'argent.
Oh,
j'ai perdu 2000 francs de ma mère.
2000 francs de ta mère ?
Oui. 2000 francs de ma mère.
2000 francs, je suis désolée.
Désolée, non. Je ne veux pas de ce mot. Ça ne calmera pas les nerfs de ma mère. Si tu avais goûté une seule minute à ces crises de nerfs, tu ne resterais pas plantée là, à me regarder sans émotion.
Mais n'aie pas peur. C'est un billet, pas une pièce.
Et alors ?
Un billet de banque ne s'enfonce pas d'un seul coup dans le sol. Sauf s'il est emporté par le vent, oui, mais c'est possible de le retrouver.
De toute façon... C'est à toi de fouiller le billet. C'est toi qui m'as bousculé.
Ouais, pardon. Je suis à la recherche de mon petit frère, Eric.
Ton affaire de petit frère ne pourra pas apaiser les nerfs de ma mère.
Mais si je trouve pas Eric le plus tôt possible, moi aussi, je devrais affronter les colères de ma mère. Et je veux pas ça.
Moi aussi, je veux pas ça.
Maman va bientôt rentrer.
Et ma mère qui va crier toute la nuit pour ses 2000 francs. Tu as pensé à ça ?
Oh, je t'en prie.
Si tu avais cherché, tu l'aurais certainement déjà retrouvé. On n'en serait pas là.
Mais tu sais pas comment ma mère est capable de se déchirer les habits parce qu'elle a pas trouvé Eric.
Et toi, tu sais pas comment ma mère peut grogner et siffloter comme une chouette toute la nuit. en t'empêchant de dormir. C'est sa façon à elle de te punir d'avoir perdu son dernier billet de 2000 francs.
Une voiture braque ses phares sur les deux adolescents.
Excuse-moi, je dois partir.
Ton coude s'est planté dans mon œil. J'ai mal. Je suis fatigué d'avoir mal ces derniers temps. Mal et toujours mal.
Je te demande pardon. J'ai pas fait exprès.
Hé ! La sœur de Bella ?
Il attrape la fille par le bras. Elle sursaute.
C'est moi. Le petit ami de Bella.
Oui, je vois.
Monologue 1. Il est 4 heures du matin. On entend quelques oiseaux chanter. Parfois, un coq. Bruit de vent dans les arbres. Froissement de feuilles. Derrière une maison, un jardin. Le père de la fille, pelle en main, creuse un trou. Parfois, il s'arrête, reprend son souffle et regarde autour de lui comme s'il avait peur d'être surpris. Brusquement, il pose la pelle, s'assoit sur un amas de terre et se met à rire. Il a l'air traversé de mille pensées. Il se lève, entre dans la maison et en revient en tenant à la main un costume et une paire de chaussures toutes neuves.
Ai-je eu l'air d'un joker sorti d'un jeu de cartes ou quoi? Quand je suis arrivé au bar ce soir, de radieux cris m'ont accueilli. Tous les yeux dans les bars se sont braqués sur moi. Je n'ai perçu la cause d'un tel enthousiasme que quand un jeune homme s'est approché et m'a dit
« Ah, aujourd'hui le grand est tiré à quatre épingles. On ne savait pas que tu étais un sapeur. »
Je me suis rendu compte. C'est mon nouvel accoutrement qui a enflammé les esprits. Oui, bien sûr. Des cris m'ont accompagné jusqu'à ma table habituelle. Ces cris ont éveillé en moi une certaine honte. Un joyeux bonjour a affleuré mes oreilles. Je me suis retourné. J'ai vu le fils du voisin assis sur la table d'à côté. Il m'a présenté son cousin en me disant qu'il était devenu le nouveau millionnaire. Le jeune millionnaire m'a regardé. Les mots qui sont sortis de sa bouche, je ne les ai pas vraiment entendus. Une seule phrase qui me revient. « Je m'en fous de la vie !» Ça pétillait dans ses yeux. En même temps, il a parlé de sa mère et de son père, mort certainement. Il a parlé de ses foutues bombes. Une musique est venue réchauffer l'atmosphère. Le jeune millionnaire s'est levé avec sa bouteille de bière. Il a aspergé dans le bar en criant à qui voulait l'entendre qu'il se foutait de la vie. Des filles ont repris le slogan en chœur. Elles ont secoué leurs reins au rythme de la musique. Le jeune millionnaire a mis la main dans sa poche, en a retiré une liasse qu'il a jetée par terre vers la foule. Des gens sont accourus de partout. Cet engouement a fait rigoler le jeune millionnaire. Il a goûté du plaisir, du pouvoir. Il était hissé au sommet. Il a regardé les pauvres bougres en bas de l'échelle qui se sont déchaînés pour se partager des miettes qui sont tombées du haut de sa tour. Un nouveau lot de billets a été projeté dans l'air et ça criait « Voix-ma, 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 patron !» Notre jeune millionnaire s'est retourné vers moi. Hey, « Eh, grand, du vin pour vous. Eux, c'est une bande d'assoiffés. Un cadeau veut dire imprévu. On reçoit et on ferme sa gueule. Grand, buvons. Demain, nous irons tous faire un gros dodo. Moi, mon père, ma tante. Aussi petit qu'il était, mon père, il courait aussi vite que le vent ce jour-là. Il avait attrapé ses boyaux entre ses mains avant de s'écrouler. Ses boyaux entre ses mains et courir avec. Une lueur sombre a traversé les yeux du jeune homme. Il a repris son petit rire bizarre. La foule qui a continué à s'enthousiasmer s'est mise à crier « La bière! La bière! La bière !» Sans se faire prier deux fois, le jeune millionnaire a crié en bavant de la bière, de la salive et de la sueur « Je m'en fous de la vie! À boire pour tout le monde !» Une envie terrible m'a pris d'imiter la folie du jeune homme. Envie de dire au barman de vider son congélateur et que ça coule à flot. Mais... mon sac avait l'air d'une bombe. Je ne voulais pas y toucher, ni à aucun billet qui sommeillait dedans. Un cafard s'était coincé dans ma gorge, et une chose quelconque voulait que je le crache. J'ai ouvert la bouche comme un chien qui halète. Rien n'est sorti. Que du souffle. Une haine quelconque m'a pris, comme ça, je ne sais quoi. Une envie soudaine de briser m'a pris. La bouteille de bière, par exemple. Peut-être de casser une table. Ou encore la bouteille de vin qui brillait sur la table d'à côté. De la briser. Voir couler le liquide rouge. Ça ferait penser au liquide rouge qu'on voyait se coaguler par le feu. Malgré le brouillard qu'il y avait, ça se voyait, ce liquide. Et moi, c'était une poitrine qui explosait devant moi. Oh, pas ça. Pas de souvenir. Ouais. J'en étais à la bouteille. Oui, la bouteille. Voir la bouteille se briser sur la tête de quelqu'un, par exemple sur celle de ma femme. Ou peut-être mieux, celle de ma sœur, Brigitte. Et aussi, celle de ma mère. La bouteille de vin sur la tête de ma sœur n'aurait fait aucun effet. Sa tête doit être solide. Il lui faudrait une courte bouteille de bière brune ou noire, là. Là, elle cracherait affreusement sa bile. Et ma femme, Martine, elle mériterait la bouteille que je tenais dans mes mains. Martine, quand elle a entonné son hymne matinal, m'assommant avec sa grosse voix, alors que le brouillard du sommeil me tenait encore dans son filet, j'ai prié Dieu de m'ouvrir les yeux dans un autre monde que celui-ci. Et Martine s'est assise au chevet du lit, comme ça sa voix tourbillonnerait mieux à mes oreilles. Je te répète, si ce n'est pas bon aujourd'hui, tu fais comme les autres, parce que moi, je ne veux plus attendre. Ma patience a atteint ses limites. Martine, ses premiers mots au réveil, 3 millions. Ses derniers mots à la porte du sommeil, 3 millions. Ça rendait fou, 3 millions. 3 millions pour la mort de nos deux enfants, Bella et Jerry. Ça rend amnésique, 3 millions. C'est une autre Martine qui est née de ces bombes. Les radiations de ces poudres m'ont recraché une mégère à la place de ma femme. Un vent a soufflé fort. Martine venait de claquer la porte. Allongé sur le lit, je n'ai pensé à rien. Je pensais que cet argent nous donnerait le sourire. Martine, ça ne donne pas le sourire. Depuis que je le tiens, je lutte fort contre quoi, je ne sais pas. Je ne saurais pas le dire. Tout se confond en moi. Je ne m'appartiens plus. La peur m'habite plus que jamais. Cet argent étourdit, cet argent assomme. Je veux t'épargner ce malaise, Martine. En me mettant dans le lit, ce soir, le sommeil m'a d'abord saisi tout doucement. Puis j'ai eu la sensation de me cogner, de quitter mon corps, je ne sais pas, un déséquilibre quelconque a tournoyé dans ma tête, j'ai ouvert les yeux, ma journée m'avait épuisé. J'aurais mieux fait de choisir un autre lieu pour passer la nuit, mais Martine ronflait à son aise. Son haleine chaude effleurait de temps en temps mon visage. J'ai été tenté de la réveiller. Lui parler de cet argent, je me le suis interdit. Plusieurs envies m'ont pris. L'enserrer, la mordre, la violer, l'embrasser, l'étouffer dans son sommeil. Je voyais cet argent en elle, sur son visage, sur sa bouche grande ouverte, sur ses cheveux. Voir Martine ronfler, c'était voir cet argent gronder.
Dialogue 2. Le garçon entraîne doucement la fille dans une maison inachevée. Il regarde autour de lui pour être sûr que personne ne les voit. Elle résiste un peu, mais se laisse quand même guider. Des mégots de cigarettes tombe de la poche du garçon. La fille observe l'endroit avec mépris.
N'aie pas cet air effrayé.
Ne me touche pas.
Je vais pas te manger quand même, je suis pas un monstre.
L'endroit me fait peur. Papa pourrait nous surprendre ou quelqu'un d'autre. Se cacher crée toujours des soupçons, des commérages.
Ne t'inquiète pas, je veux juste te parler.
Me parler? Tu fumes maintenant?
Non, je n'ai jamais...
Et ça?
La fille montre les mégots de cigarettes.
Je les ai vus tomber de ta poche. Et moi? Tu me fais peur.
Elle tente de partir.
Ne t'en va pas.
Je ne peux pas rester ici.
Je veux te parler.
Je ne peux pas rester, je te dis. Pourquoi tu m'as fait venir dans cette maison inachevée?
Je ne sais pas. Je voulais être avec toi. Seul avec toi.
Seul avec moi?
Le garçon la regarde avec peine. Sort un morceau de papier froissé de sa poche.
C'est sa dernière lettre. C'est toi qui me l'avais apportée.
La fille regarde attentivement le papier froissé, refoule ses larmes.
Oui, je sais.
Je l'avais froissé quand j'ai su qu'elle ne pourrait plus sourire avec cet air taquin qu'elle avait.
Je ne veux plus parler de ça.
Mais regarde-moi, tu veux plus parler de quoi? Du sinistre? De Bella? Ah, tu ne veux plus parler de ta sœur?
Je sais pas! Je veux plus parler de tout ça. De tout ce que tu veux qu'on parle.
Je n'arrête pas de relire cette lettre.
Mais arrête! Je t'en prie!
Son courage, sa vivacité...
Mais laisse Bella tranquille! Laisse Bella tranquille! Laisse Bella tranquille! Laisse Bella tranquille! Laisse-la tranquille où elle est!
Mais je n'ai plus jamais parlé de...
Parler-t-elle va m'épuiser? Je ne veux pas m'épuiser.
Elle sort.
J'avais autre chose à te dire.
Je crains de laisser maman seule longtemps.
Promets-moi...
Je dois veiller sur Eric. Et je veux aussi que papa me trouve à la maison.
Monologue 2. Dans un salon, des billets de banque éparpillés sur une table. La mère du garçon tourne autour de l'argent. Elle a un paquet de cigarettes en main.
C'est donc ça? 3 millions? 3 millions que je n'aurais jamais vu de ma vie sans le sinistre. 3 millions. Sur les cendres de nos vies vont pousser les 3 millions. Non. Sur les cendres de ta vie poussent à présent les 3 millions. Je te vois dessus. Je te vois sur les 3 millions. Si c'était sur les cendres de ma vie que ces 3 millions avaient poussé, tu aurais fait quoi, toi? Je te vois me tourner le dos parce que monsieur allait bientôt esquisser ses plus beaux sourires et que moi, je ne les méritais pas, ces beaux sourires. Tu les aurais dirigés ailleurs. Une fois que la vie t'aurait assouvi sans pour autant avoir pu te satisfaire, tu aurais porté la colère de tes insuffisances sur mon corps, que tu battais comme on bat un tam-tam. Ne me serais-je pas attendu à voir des hématomes se déployer sur tout mon corps? Pour un oui ou un non, tu n'avais que la violence à me partager, commençant par tes yeux jusqu'à tes bijoux de famille. Même ma respiration t'enrageait. Tourneboulait ta tête, ton cerveau. Non! Tu n'es plus là. Tu n'es plus que ces 3 millions. Et je vais te bouffer. Oh, tu sais ce que j'ai acheté en premier avec toi? J'ai acheté de la cigarette. Oui, de la cigarette. Simplement. Oui, je vais fumer maintenant. C'est te dire que j'ai changé. Je te vois déjà te remuer pour crier à une abomination. Mais tu n'as plus voix au chapitre, monsieur 3 millions!
Elle sort une cigarette du paquet et s'assoit et fume. Elle envoie de la fumée sur les billets de banque posés sur la table. Elle tousse de temps en temps. Elle rit aussi par moments.
Comment ça m'est venu, cette idée de cigarette? Je crois que j'ai toujours rêvé d'être une femme fatale. Une femme aux allures. Une femme moderne. La cigarette doit donner cette allure, n'est-ce pas? Mon chéri. Oh, je t'ai appelé mon chéri. Oh, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas appelé chéri? Quelqu'un m'aurait vu ce matin. Et cet après-midi, il n'aurait rien compris. Ah oui, hein. Celle qui est sortie de cette maison ce matin et celle qui est rentrée cet après-midi sont deux personnes différentes. Ah oui, bien différentes. Je pense encore au remords qui m'assaillait quand je suis sortie de cette maison. J'avais une haine presque ignorante sur les 3 millions. Là, je rentre avec une folle envie de vouloir croquer la vie à pleines dents. Ah, j'ai fait une rencontre qui m'a mis la puce à l'oreille. Devant les bureaux de l'administration, j'ai rencontré trois femmes terribles. Elles avaient des langages qui m'ont révulsée au début. Par la suite, leur conversation m'a presque éblouie. Elles sont toutes les trois devenues veuves suite au sinistre. Elles ont exprimé une rage à vouloir tuer leur mari une deuxième fois. Elles ont fait un éloge du sinistre, comme quoi il était leur sauveur. Tu te rends compte? Elles l'ont crié devant tout le monde. Mon fils m'accompagnait. Lui aussi a entendu. Il y en a une parmi elles que le mari a failli dépecer avec un poignard. La deuxième femme s'est retrouvée par trois fois évanouie, par trois fois transportée et réveillée à l'hôpital. Tu sais quel genre de salaud était le mari de la troisième femme? Eh bien, il était un salaud de ton espèce. Un chauffeur de taxi qui avait des poches trouées chaque fin du mois. Il avait la même chanson à la bouche, que ses patrons ne le payaient jamais. Et tu sais ce que faisait sa femme? Vendeuse de coco comme moi. Elle vendait ses feuilles sauvages pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Le mari l'avait réduite à une vie d'extrême pauvreté au point qu'elle passait son temps à coudre et recoudre ses pagnes, déjà fatiguée au fil blanc, devenant ainsi la risée de tout le quartier. N'est-ce pas là mon histoire à moi? Un bon matin, la femme a décidé d'aller voir le patron de son mari. Elle a noué son pagne avec des nœuds solides, elle en avait marre. Et tu sais ce que ce salaud de mari qui te ressemble a fait? Il a pris un morceau de pagne fatigué de sa femme. Il a couru, il l'a attaché à la branche d'un manguier, disant à sa femme que si elle insistait pour aller voir son patron, lui, il n'avait qu'un seul chemin à suivre, le suicide. Parmi les trois femmes, c'est elle qui avait la rage dans le sang, ça se voyait, elle n'avait que la peau sur les os, comme si elle souffrait de malnutrition. Elle a eu des crises de pleurs, mais elle ne pleurait pas son mari, hein. Elle pleurait parce qu'elle s'imaginait déjà le nombre de pagnes et de bijoux qu'elle allait s'acheter avec les 3 millions. Tu te rends compte?
Dialogue 3. La fille entraîne doucement le garçon dans la maison inachevée. Elle regarde autour d'elle pour être sûre que personne ne les voit. Le garçon a l'air étonné. Il suit la fille avec hésitation.
Tu m'as traité de tous les maux quand je t'ai emmené ici, et toi tu me traînes ici comme un animal.
Chut! J'en peux plus!
Tu n'en peux plus de quoi? Pourquoi m'emmener ici?
Mon père, il devient fou, il les a enterrés, tu te rends compte? Il les a enterrés sans remords.
Il a enterré quoi?
Que va dire ma mère? Que va-t-elle faire? J'en peux plus de continuer comme ça!
Mais continuer comme quoi? Ta mère a fait quoi?
Elle crie à longueur de journée, elle s'alarme pour un rien. Elle peut pleurer à l'instant et puis rire par la suite. Parfois, elle griffe dans le vide. Elle pense que tout complote contre elle. Elle s'isole la plupart du temps, elle parle toute seule. Elle peut plus s'occuper de Bertie et d'Eric. Elle crie tout le temps qu'elle n'en peut plus. Et moi alors?
Non mais attends, je veux d'abord que tu te calmes.
T'as vu le regard de la tante? Elle me lorgne bizarrement chaque fois que je prends soin de mon frère et de ma sœur. Elle dit que c'est une tâche qui revient à ma mère et non à une fille de 13 ans.
Viens.
Non.
Le garçon entraîne la fille sur une pierre, s'assoit à côté d'elle. Elle tremble. Elle veut parler. Il lui ferme la bouche avec son index.
Chut! Je veux que tu restes calme.
Hier, Brigitte, ma tante, a frappé copieusement le petit corps de Bertie avec un fouet en caoutchouc. Pourquoi ? Bertie l'a regardé manger avec des gros yeux gourmands. Et la Brigitte, elle aime pas les enfants gourmands, surtout avec des gros yeux qui la regardent. Maman a crié qu'elle était fatiguée de recueillir chaque jour le fond des marmites. Et lui, il a... Tu sais ce qu'il a fait, mon père ? Je veux plus le voir.
Non, mais calme, calme.
Mes 13 ans ont déjà commencé à peser sur mes épaules.
Je viens de quitter ma mère. Elle s'est enfermée dans la maison et elle parle seule et elle parle à table. Tu sais, j'ai vu ton père hier.
Je parie qu'il n'avait pas toute sa tête.
Hier soir, la nouvelle s'est ébruitée dans les environs qu'il y avait un nouveau millionnaire dans le bar qui a offert à boire à tout le quartier. Ton père était là, dans le bar. Il portait un costume tout neuf, il était tout sourire. Mais il y avait quelque chose en lui qui disait qu'il n'était plus le même homme.
Si Bella était là, elle aurait eu le courage de l'arrêter dans sa besogne. C'était à moi de mourir à sa place.
Sans contrôle, le garçon s'approche de la fille et lui prend les mains.
Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai besoin de toi, moi.
Je suis pas Bella.
Je dis pas que tu es Bella.
Je suis pas Bella. Ça veut dire que tu me touches pas comme ça.
Non mais c'est pas ce que tu crois. Non,
ouais, je voulais juste... Tu voulais me toucher comme tu touchais Bella.
Mais non !
Ah si, je vous voyais. Je voyais comment tu lui prenais ses mains et elle
c'est riait. Toi que je voyais et non Bella.
Non,
donc quand
pas.
Je venais chez vous.
Non.
La fille gifle le garçon.
Insulter Bella de cette...
Arrête !
Le garçon secoue la fille. La fille veut s'enfuir. Le garçon l'attrape par la main et lui barre la voie. La fille veut prendre une autre sortie. Le garçon ramasse une grosse pierre.
Si tu fais un pas de plus, j'écrase cette pierre sur ton dos.
Hé hey !
Elle s'arrête, se retourne les mains en l'air, gardant son calme. Silence. Le garçon jette la pierre. Il est horrifié, confus. Silence. Sans oser regarder la fille, le garçon met sa tête entre ses mains.
Pardonne-moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Tu peux pas comprendre. Bella n'était pas ce que tu crois. Elle portait bien ses shorts.
Je sais qu'elle portait des shorts et alors.
Non mais tu comprends pas, non. Elle jouait au football avec moi.
Non mais tu délires. Non,
je volais l'argent de mon père. Elle aussi volait l'argent de votre père.
Mais arrête ! Tu vas me rendre folle. Un père qui enterre de l'argent, une mère qui compte les étoiles, et toi, un voleur, Bella ? Non !
La fille sort en courant.
Hé, hey, attends ! C'est parce que... Elle court toujours. Votre père a enterré l'argent ? Leur père a enterré l'argent ? Mais le fou, c'est qui ?
Moment joyeux. 1. Le père de la fille avec un gros sac qu'il pose à terre.
Bâtir sur un marécage, échapper à une catastrophe n'assure en rien une bonne reprise de soi. Être rescapé, ça vous rend la vie qu'à moitié, juste vous permettre de respirer. Et l'autre moitié est emportée par le déluge. Ça vous fait tenir sur un fil, prêt à vous lâcher au moindre souffle. Comment le dire à Martine ? Elle ne m'a jamais pardonné les 3 millions. Pourtant, je me suis senti homme ce jour-là. J'avais fait le deuil et retrouvé ma paix. Martine me tuerait si je ne rentrais pas avec cet argent.
Il agite le sac.
25 millions pour Géry, 25 millions pour Bella, millionnaire pour deux enfants, deux beaux enfants, de très beaux enfants, de très beaux enfants broyés par le sinistre. Pour ce genre de cas, où le remords vous pend le même jour puis s'en va, où il vous quitte à jamais. Mon remords à moi a existé un seul jour, puis s'en est allé. Il le fallait pour tenir le coup. Mais cet argent est ma faiblesse. Elle me met à genoux. Et la Brigitte qui cherche toujours une ombre quelque part.
Deux. Dans la maison inachevée. Le garçon est assis sur une pierre. Il fume. Il regarde un peu partout, s'impatiente. Dès qu'il voit la fille s'approcher, il jette son mégot de cigarette.
Tu n'avais pas à traumatiser Eric pour qu'il m'incite à venir ici.
Non, mais je lui ai juste dit de te dire que j'attendais ici.
Tu lui as dit combien de fois dans la journée? Et combien de fois dans la semaine? Presque chaque jour, chaque heure. Je veux plus de ça.
Elle sort.
Attends.
Au fait, tous ces mégots, c'est toi qui fumes comme ça?
Non, c'est... Tu sais, ma mère fume aussi. Elle porte des chaussures à haut talons maintenant. Des tailleurs chics. Elle sourit à tout moment, comme si elle planait dans les nuages.
Et toi, tu lui voles son argent.
Je suis pas un voleur.
Ah, qui glisse ses mains dans les poches de son père peut aussi les glisser dans la trousse de sa mère.
Mais c'était pour aider nos mamans.
En détroussant vos papas.
C'était l'idée de Bella.
Je t'interdis de salir l'image de Bella.
Non mais, attends.
Ne cherche plus à voir Eric.
Quoi? La mère du garçon, d'une main, elle tient un paquet de cigarettes, de l'autre, elle a une bouteille de champagne.
De ta poussière, l'échéance a augmenté. Paf! Tu deviens 25 millions! Du champagne! Du champagne! Je dis que ça coule à flot! Et ça coule! Allez, bois un petit coup avec moi! Je parie que tu goûtais au champagne, toi! Avec tes maîtresses, certainement. Avec ton salaire de directeur d'école privée. À moi, tu disais toujours qu'on ne t'avait toujours pas payé. Oh, ta poussière a bien payé chaque hématome que tu m'as infligé pendant nos 20 ans de vie commune. Ta poussière a récompensé toutes mes années de dur labeur. Passant de vendeuse de Sky, yaourt, jus de bissap, jus de gingembre, à vendeuse de feuilles sauvages, de coco avec une échine courbée, des moqueries dites dans mon dos, des ristournes finissant par des insultes. Tu avais fait de mon quotidien un enfer. À présent, je suis au champagne. Chaque jour, j'apprends à sourire, à me relaxer, à me sentir légère. Ce regard que j'avais, celui d'une âme frustrée, celui qui appelait la pitié. Tu te souviens de ce regard que tu fuyais chaque soir? Eh ben, il s'est volatilisé. Tu sais ce que je veux apprendre là maintenant tout de suite? Nager. Je veux apprendre à nager. Je nagerai comme une forcenée, comme ça, à chaque brasse. C'est le passé qui s'en ira. Et toi avec. À chaque brasse. Une portion de ton odeur quittera certainement mon corps. Et ton fantôme aussi.
4. La mère de la fille, elle a un gros sac. Elle pose le sac au sol, sort des billets de banque.
Oh, il ne mourra pas cette fois-ci. Enterrer 3 millions? Qu'il ose le faire avec ça, je le tue.
Elle se couvre de ses billets de banque avec exaltation.
Martine, Martine, je n'entends plus rien. Martine, Martine, je suis dans l'ivresse de moi-même. Martine, Martine, je goûte aux millions. Je hume leur odeur. L'ivresse me prend. On dit que leur parfum apaise les nerfs. Leur parfum donne toujours le sourire. Leur parfum rajeunit de 10, 15, voire 20 ans. Dire que ces billets de banque m'appartiennent, ça me rend ivre, ivre d'insouciance. Et Brigitte, ma chère belle-sœur, qui devient toute douce, celle qui a régné comme une reine sur mon royaume, rendant ma cohabitation avec la belle famille plus que désagréable, je la tiens tout en laisse. Elle a été folle, je le sais, de croire que ma famille était responsable mystiquement du sinistre qui a secoué toute la ville. Je lui concède cet aspect superstitieux de la chose. Mais me servir d'elle pour que son frère m'épouse enfin, c'est en ça que la Brigitte devient intéressante.
5. La fille dans la maison inachevée. Elle compte les mégots de cigarettes. Le garçon arrive. Il est surpris de la retrouver là.
Papa a lu ta lettre. T'es fier de toi ?
Elle s'arrête, regarde le garçon avec surprise. Il porte un beau costume.
Tu es toute belle !
Je savais que t'allais venir ici.
Tu rayonnes dans ta robe, ta coiffure. Tes bijoux sont super.
Oh, c'est ma mère qui m'encombre de toutes ces futilités. Mais toi, t'avais pas à m'écrire. Surtout pas à donner ta lettre à Eric. Papa l'a interceptée.
Il n'y a rien de grave. Je t'ai juste demandé pardon dans la lettre.
Et Bella, t'as pas parlé de Bella?
Mais non. Je sais que ça ne t'aurait pas plu.
Ça aurait surtout fait mal à mon père. Il disait qu'elle lui ressemblait. Tu portes un beau costume.
Oui, c'est du Ralph Lauren. Ma mère dit que c'est la qualité américaine.
Mais je dirais à maman d'en acheter un pour Eric. Elle se guérit dans le shopping, ma mère.
Ouais, la mienne aussi. Attends, s'il te plaît.
Je veux pas t'entendre parler de Bella. 6. Réunion de famille. Pour discuter des dépenses à effectuer avec les 50 millions perçus par le père de la fille.
Par où faut-il prendre la fuite? Une crispation sans merci envahit ma chair. Je me raidis comme si j'entendais des ligaments de mes muscles se déchirer. Oh, douleur. Une bouffée de chaleur me sillonne d'un trait. Je dégouline de partout, piqué à vif. J'aimerais décarcasser ma peau. J'ai plutôt envie de me déshabiller, de courir, peut-être de m'envoler, partir d'ici. Tous ces gros yeux assoiffés de spectacle se jetteront sur moi, me traiteront de fou, riront jusqu'à se tordre. Ils trouveront là un spectacle à la taille de leur enthousiasme. Je retiens mon souffle aussi longtemps dans ma poitrine. Il arrose mes poumons. Sensation de flottement. Brigitte veut ma peau. Elle a rassemblé toute la famille. Que faire de l'argent devient une affaire familiale. Et la Martine qui s'accroche à elle quand il faut parler de mariage.
7. Si tu me voyais aujourd'hui, tu ne croirais pas. Tu ouvrirais tes yeux jusqu'à ce qu'ils éclatent. Moi, qu'on appelait la planche, je suis toute transformée. Tu insultais ma taille anorexique, mais aujourd'hui, je porte des robes qui affinent majestueusement ma taille. J'ai une peau hydratée, réhydratée, avec des crèmes haut de gamme. Tu sais, j'ai un fiancé maintenant. Ouais, il dit que j'ai des jambes de rêve. Est-ce que toi, tu avais un seul jour admiré mes jambes? Non.
8.
Je regarde tout du haut de mon sommet. C'est juteux d'être au sommet. J'achète le sourire. Non, j'achète tout sourire. J'achète le respect, l'obéissance, le droit d'aînesse, la priorité. J'achète surtout Brigitte, ma belle-sœur. Mon sommeil est presque vénéré. Je peux dormir 2 jours d'affilée. Pas une seule plainte. Personne pour me traiter de paresseuse. C'est le sommeil du sommet.
Moment suspendu.
Monologue 1. Dans une cérémonie de dot, la mariée est cachée par certains membres de sa famille à un endroit qui ne doit pas être connu de la belle famille. À un moment de la cérémonie, le marié devra aller chercher sa femme. S'il ne parvient pas à la trouver, il devra payer une amende. En ce moment, la mère de la fille est à cet endroit, cachée, car c'est le jour de sa dot. Elle est dans une chambre devant un grand miroir, habillée cérémonieusement. Elle attend que le marié vienne la chercher. Elle oscille entre rêve et réalité. Elle semble entendre des voix à l'intérieur d'elle. Elle regarde son reflet dans le miroir comme si elle était hypnotisée. La mère de la fille a une bouteille de bière entre ses mains.
transformée en une poupée indienne. Je suis là, toute belle. Je ne me reconnais plus dans ce miroir. Une coiffure lourde sur ma tête. Mon sari d'un rouge vif fait de moi une déesse sortie des films hindous. Une beauté, ça s'achète aussi. Je goûte au plaisir d'acheter la beauté comme les femmes de la haute classe. Encore la nausée.
Elle boit une gorgée.
Les vertiges. Entends des voix, j'entends des voix. Ou c'est moi-même qui m'entends crier au-dedans de moi. Toutes ces sensations m'ont cloué au lit ce matin. J'ai eu envie d'avoir des ailes et de m'envoler comme un oiseau. Brigitte est rentrée dans notre chambre. Elle a tiré les rideaux. La lumière du jour m'a donné du courage d'ouvrir mes yeux. Mais mon corps est resté cloué au lit. Ma tête s'est trouée cette nuit. Tout est tombé dans le trajet de mes rêves. Il n'y a plus rien, rien du tout. Cette phrase, dite dans un moment d'étourdissement, a fait peur à Brigitte. Voyant que mes sens s'embrouillaient, elle a massé mon corps avec un baume. J'ai crié. Mon corps s'enflammait. Il a été roué de coups cette nuit, on dirait. En me massant, Brigitte faisait des incantations de prières. Une confusion a envahi mes pensées. Je me mettais à délirer. Que tout envoûtement soit anéanti. Un jour de mariage. Ce n'est pas possible, elle a crié. Je sais que ma sortie serait abracadabrante. La parcelle et la ruelle seraient mises en effervescence. Des femmes agiteraient leurs pagnes. Les hommes crieraient en agitant leurs bouteilles de bière. Les enfants vont accourir de partout. Tout le monde voudrait voir la mariée. Est-elle belle? A-t-elle maigri, grossi, défraîchi? Est-elle encore jeune? Son sourire a-t-elle des fossettes? Ses habits, sa coiffure, ses chaussures, ses ongles, son cou, son teint, son maquillage, sa poitrine, ses hanches, bla 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 bla. Oh, je ne veux pas ça. C'est un moment de sourire, mais je n'en ai pas. Je ne saurais pas en distribuer. J'entends des voix. Bella. Jerry. Jerry. Bella. Bella, Jerry. Jerry. Bella. Bella, Jerry. Comme si je les voyais dans le miroir.
Elle touche le miroir.
J'entends la voix de qui? De Jerry? De Bella? Non. Ça doit être celle de Jerry. La voix de Bella est plus grave, caverneuse. Oui, Jerry, que je vienne.
Elle se cogne.
Qu'est-ce qui m'arrive? Je veux rentrer dans le miroir.
Elle prend une gorgée de bière.
Jerry, cette nuit-là, tu avais dormi avec les nouvelles baskets que j'avais rapportées du marché. Tu étais tellement content que personne n'avait réussi à te les faire enlever. Le matin, sous les bombes, tu as couru avec. Oh, Jerry. Mon Jerry.
Elle tend ses mains vers le miroir.
Tu es tombé en serrant la main de Bella. Puis tu t'es envolé comme un oiseau. Oh, Jerry. Le sourire. Le sourire.
Elle regarde attentivement dans le miroir.
Ça doit être celui de Bella, oui. Le sourire de Bella. Bella. Bella, tu veux me prendre en photo? Non. Mon sourire? Tu veux prendre mon sourire en photo? Ils arrivent!
Bruit de l'extérieur, des pas, des cris, une porte s'ouvre, une lumière est projetée sur elle et l'aveugle. Elle couvre ses yeux avec ses mains en criant.
Non!
Puis noir.
Dialogue 1. La fille. Dans la maison inachevée, elle porte une belle robe. Elle attend le garçon, elle s'impatiente. Elle semble troublée.
Bella! Jerry, Jerry, Bella. Bella, Jerry. Non, pas Bella. Elle avait une voix grave, pressante, autoritaire. C'est la voix de Jerry que j'entendais. Une image de lui tout souriant m'est revenue et m'a oppressée. Jerry, Jerry. Jerry, Bella!
Le garçon rentre.
Hey, tu es... Quoi, tu pleures?
Tu es là.
Tu es belle dans cette robe.
Merci, j'ai oublié que je l'avais gardée sur moi.
Le garçon prend les mains de la fille.
Tu pleures? Tu parles de Bella? De Jerry?
Je sais pas ce qui m'a pris d'un seul coup. Nous étions en train d'essayer des robes de filles d'honneur, mes cousines et moi, et brusquement, j'ai vu le visage de Bella et de Jerry sur cette robe. J'ai été troublée. Je me suis rappelée que je les avais pas vraiment pleurées. Leur souvenir me revient tout frais. J'ai senti comme une épine qui me tenaillait le cœur. Et j'ai pas eu le temps de changer de robe, je me suis enfuie.
C'est horrible ces souvenirs.
Il veut enlacer la fille, mais elle s'écarte.
Je dois aller mettre cette robe, la remettre. Le mariage est pour bientôt et je veux pas qu'on se rende compte de son absence.
Le garçon attrape la fille par le bras.
Attends.
Lâche-moi.
Mais
et tu m'avais promis.
Quoi?
Là, derrière cette pierre, des mégots de cigarettes.
D'autres personnes viennent ici aussi, tu sais.
Ouais, d'autres personnes, mon œil. Quand tu mens, tu sais, ton regard va vers la gauche.
Qu'est-ce que tu racontes?
Il rit ironiquement.
Eh bien, de toute façon, tu sais que fumer n'est plus un tabou pour un jeune garçon. Même pour une jeune fille.
La fille le regarde comme si elle était stupéfiée par quelque chose.
Ok. J'en ai juste pris une. Ou deux, quelle est l'importance? Je suis plus accro, je te dis.
La fille reste toujours pétrifiée.
Mais quoi? Qu'est-ce qui te prend d'un seul coup?
Non, j'ai réfléchi. Ça me trottine dans la tête ce que m'a dit Eric.
Eric?
Quand je suis allée vérifier hier, dans la nuit, s'il s'était endormi, il m'a demandé pourquoi tout le monde était devenu gentil avec lui.
L'argent rend tout le monde gentil.
Oui, mais pourquoi? Tu connais pas ma tante Brigitte? Elle était la terreur pour Eric. Si tout n'était que mensonge...
Je vois pas où tu veux en venir.
J'essaie de poursuivre la pensée d'Eric. Depuis que notre vie a changé, Eric est la seule personne qui s'est rétractée sur lui-même. Il a perdu tout son enthousiasme, même face au cadeau.
Ce n'est qu'un enfant, ça lui passera.
Oui, mais ses sentiments sont vrais. Je sens qu'il y a une fausseté quelque part. Et Eric m'a demandé autre chose. Pourquoi papa est ivre tous les jours? Je lui ai demandé comment il savait.
Il a dit quoi?
Il a observé que quand papa rentre la nuit, il titube et il danse en désordre. Il crie sur tout le monde. Ce qu'il sait pas, c'est que maman aussi s'enivre, chaque jour. Mais elle, quand elle se saoule, elle va s'endormir calmement. Depuis que les préparatifs du mariage de nos parents ont commencé, l'enthousiasme de maman a baissé d'un cran. Ça lui ressemble pas.
Viens, n'y pense plus.
Le garçon s'approche de la fille. Elle se laisse enlacer, puis brusquement s'éloigne.
Quoi?
Je t'ai vu hier soir.
Le garçon écarquille ses yeux.
Tu m'as vu hier?
Oui, je dois partir.
Non, attends!
Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries? Puisque je t'ai dit que je t'ai vu, t'as pas à me crier dessus.
Tu m'as vu où?
Chez vous.
Chez nous?
Oui, devant le portail, à 18h.
La fille sort sans que le garçon ne la retienne.
Elle m'aime donc? Elle m'aime?
Monologue 2. La mère du garçon. Dans une des boutiques de lingerie dont elle est devenue propriétaire. La boutique est fermée. Autour d'elle, différentes bouteilles de liqueur. Elle boit un peu de chaque bouteille.
Je vois déjà le mot qui veut sortir de ta bouche. Ivrognesse. Ivrognesse, et puis quoi? Toute la ville est devenue riche d'un seul coup. Du coup, toute la ville est devenue ivrogne. C'est une équation bien équilibrée. Se saouler la gueule nous permet d'endiguer cette part de nous que le sinistre a laissée. Tu te rappelles, une fois, je t'ai parlé de trois femmes. Celles qui m'avaient mis la puce à l'oreille. J'en ai revu une dans un restaurant. Celle dont le mari a failli se pendre parce qu'elle... Ah ben, tu t'en rappelles bien l'histoire. Mais de son mari, je te disais qu'il était un salaud comme... Ah, ok, ça aussi, tu sais, d'accord. Eh bien, cette dame avait une coiffure à la Marie-Antoinette. C'était une montagne qui balançait sa tête de l'avant vers l'arrière et vice-versa. Elle avait au moins 5 colliers en or autour de son cou. Elle était assise sur une table, isolée. Elle n'arrêtait pas de gigoter sur son siège. Je l'ai reconnue par son demi-sourire sarcastique qu'elle arborait ce jour-là. Et puis, elle s'est mise à briser toutes les bouteilles qui étaient sur la table.
Elle rit en aspergeant les lingeries d'alcool.
Ah, vous aussi, vous devriez boire. Buvez, mes chères marchandises. Vous avez fait de moi une femme exceptionnelle.
Elle joue avec des sous-vêtements. On exhibe quelques-uns.
Je me demande bien quel genre de lingerie tu aimerais voir sur mon corps. Ça, ou ça, ou peut-être ça, ou encore ça. Zéro. Tu n'as jamais eu voix au chapitre. C'est dans mon âge avancé que j'ai découvert que face aux lingeries, les yeux de certains hommes se transforment en lampadaires. Ils vous scrutent avec appétit comme un chien affamé. Tes yeux ne pouvaient même pas s'allumer à la lumière d'une petite torche. Que j'en mette des nouveaux, que j'en mette des vieux. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir des boutiques de lingerie. Ce que tu ne sais pas, c'est pourquoi. Eh bien, parce que si l'équilibre de l'homme commence par son intérieur, son apparence aussi commence par son intérieur. C'est vrai que tu n'étais qu'un salaud, mais tu étais mon salaud. J'ai pas fait couler une seule larme pour te pleurer. Mon salaud!
Elle prend une gorgée de liqueur, tourbillonne en aspergeant les lingeries. Elle halète, suffoque, douleur.
Est-ce qu'on pleure, les salauds? Tu sais pas combien de fois j'ai retrouvé des perruques, des culottes, des chaussures de dame dans la chambre de mon fiancé. Il m'a toujours répondu que ce sont les affaires de sa sœur qu'elle oublie toujours. Alors que sa sœur n'a que 10 ans! Lui aussi, un salaud. Arrête de rire. Un salaud sophistiqué. En mangeant du caviar du matin au soir, on oublie sa saloperie. Il veut que je choisisse vite le jour de notre mariage.
Elle boit une gorgée.
J'ai pas pu te pleurer. Mon salaud.
Dialogue 3. Le garçon. Dans la maison inachevée, il a l'air calme et pensif. Il sent qu'il veut contenir une douleur au-dedans de lui.
Un jour, alors que j'avais égaré mon cahier de maths, je le cherchais dans tes affaires. J'ai trouvé une petite enveloppe dans un livre. Quand je l'ai ouverte, il y avait des billets de banque. Bella m'avait conseillé de garder cet argent et de voir ta réaction. Et tu t'en es pris à maman, alors que tu lui disais toujours que tu n'avais rien. Je t'en ai voulu. Oh papa, je t'en ai voulu. Papa, j'ai pas pu te pleurer.
La fille rentre.
Tu pleures ?
Comment tu sais que j'étais ici ?
Je savais pas. Tu pleures ?
Juste une pensée vers mon père. Ce jour-là me revient. Quand la première déflagration a tonné, papa nous a réveillés, ma sœur et moi. Il portait juste un pantalon. Son torse était nu. Maman n'était pas là, elle était à l'église.
Il nous a demandé de sauter par la fenêtre des chambres. Nous avons couru comme des fous. À la deuxième déflagration, il est tombé et un mur est tombé sur lui.
La fille enlace le garçon.
Je suis persuadée que te souvenir de lui te donnera la paix, et aussi à son âme.
Le garçon enlève les mains de la fille.
Tu as déserté notre lieu secret sans remords.
Sans remords?
J'ai passé une semaine à guetter ton ombre, sur votre ruelle. Tu m'as même refusé d'apercevoir ton ombre.
Toi, sur notre ruelle?
Même devant votre portail.
Sans voir mon ombre?
Chaque jour. Je passais chaque jour.
Mais je t'ai pas vu un seul instant.
Le soir, tu te glissais sous le manguier, en face de chez vous.
Je restais là avec mes copines et ses frères.
Et ta copine et ses frères?
Bah oui.
Et ta copine et ses frères?
Mais où est le problème?
Ses frères.
Hein?
Et ce frère là, avec sa barbichette comme un cabri, n'est pas trop âgé pour toi?
Et cette vieille fille qui sortait avec toi du portail l'autre jour, vous sembliez bien vous entendre?
C'est la copine du fiancé de ma mère.
Quoi?
T'as entendu?
Mais ta mère est au courant?
Non.
Tu lui as rien dit?
Non, je suis un garçon.
Et moi je suis une fille, je vais le lui dire.
Mais je veux dire par là que je n'interviens que quand il y a mort d'homme. Pas pour des futilités.
Une affaire de cœur, t'appelles ça futilité?
Le garçon sort.
Où vas-tu?
J'ai un devoir personnel à accomplir. Une affaire de cœur.
On peut danser si tu veux.
Ouais, sous le manguier, vous dansiez aussi. J'ai vu l'autre nuit.
Il sort.
Il est jaloux. Il est jaloux, vraiment, vraiment jaloux.
Monologue 3. Le père de la fille. Au bord du fleuve, comme en transe. Il se roule dans le sable, puis se cogne contre les rochers des cataractes, puis se calme. Il a l'air étourdi, perdu.
Je nage dans du sable. Je me cogne contre ces rochers. Ma chair ne frémit pas. Je me sens étourdi. Qu'est-ce qui m'arrive?
Il s'assoit.
Je pourrais me jeter dans le fleuve. Non.
Il respire goulûment. Un air doux remplit ses poumons.
Un bel air.
Il devient plus lucide, se secoue.
Je me suis enfui. J'ai détalé comme un voleur. J'ai fui mon mariage. Ma soirée. Martine aussi. Martine a pris la fuite. Martine a pris la fuite. Puisque le mot mariage a pris d'assaut leur bouche à Martine et à Brigitte, mes nuits se sont envenimées. Comme un véritable forcené, je cours dans les savanes, des montagnes, des ravins, je ne sais pas, trempé dans une sauce pimentée. J'en ai l'air en tout cas, je cours jusqu'à ce que les ailes poussent derrière mon dos, je ne sais pas, des ailes ou des piquets, enfin des choses que je ne vois pas, qui strient mon dos. Mes nuits ont pris la place des bombes. Ces bombes n'ont pas arrêté de me poursuivre, de violer mon sommeil. Quand la bière me lessive à mort, je vois mes jambes grossir jusqu'à déchirer mon pantalon, s'enflammer au moindre contact avec le sol. Je brinque-balle étourdi en complète déconnexion avec ma volonté. Je soulève mes jambes jusqu'à sentir mes cuisses se fissurer, puis un boum m'achève au sol, parfois sous le lit où ma femme me ressort le matin. Je revois Eric demander à sa sœur: pourquoi tout le monde devient si gentil avec moi? Et pourquoi papa se saoule chaque jour? J'aurais voulu le rassurer. Lui dire que papa ne prendra plus une seule goutte d'alcool. Mais ce temps de claquement de biais nous fait bouillonner la chair à 1000 degrés. On se fait écraser par notre propre ombre. Un matin, j'ai vu le jeune millionnaire du bar. Il avait construit une belle maison à 2 niveaux. Ce matin-là, il a déversé de l'essence dans toutes les pièces de la maison et il y a mis le feu.
Il regardait la maison partir en fumée, tout content. Il applaudissait son chef-d'œuvre. Il avait l'air exalté, comme si chaque flamme qui pétillait dans sa maison lui restituait chaque portion de son être. Une foule s'est acharnée sur lui en le traitant de fou. Mais il n'était pas fou. C'est juste cet argent. Martine n'est pas venue. Elle a fui cette soirée dont elle a toujours rêvé d'être la reine. Elle s'est dépouillée de ce désir comme par enchantement. Le jour de la dot, elle avait un regard fuyant, évasif. Peut-être qu'elle court aussi la nuit comme une forcenée. Le jeune millionnaire et sa maison. Le jeune millionnaire et sa maison. Et Martine, je crois savoir où elle est. La folie du jeune millionnaire.
Il sort en courant.
Dernière scène.
Dans une rue.
La fille d'un côté, le garçon de l'autre.
Ils courent l'un vers l'autre.
Leurs beaux habits ont l'air fatigués.
Ils s'arrêtent face à face et respirent fortement.
Puis se jettent dans les bras l'un de l'autre.
Ils se sourient.
Ils sont essoufflés.
Je me sens apaisé.
Oui, moi aussi. Comme si une roue de fortune nous avait fait vivre à une vitesse effrénée. Et là, elle est peut-être partie. Elle s'en est allée. Le silence revient après la tempête.
Mais tu as quitté la soirée en catastrophe. Je t'ai vu courir comme une forcenée.
Mais toi aussi, je t'ai vu courir comme un forcené. Alors que j'attendais de monter dans le premier taxi venu.
Je rejoignais ma mère.
Oui, je vois.
Je sais pas comment tu te sens. J'ai l'impression que tout est fini. Mais qu'est-ce qui est fini? Je ne sais pas. Une certaine paix m'envahit.
Toute cette agitation autour de nous va prendre fin. J'en suis sûre.
J'ai l'impression que l'âme de mon père a quitté mon corps. Peut-être qu'elle a trouvé du repos, comme on dit.
Peut-être que celles de Bella et de Jerry vont aussi libérer mon corps. Parle-moi de Bella.
Tu me l'avais interdit?
Plus maintenant.
On jouait dans une même équipe de football.
Alors c'est vrai? Elle joue au football?
Oui. Pourquoi, tu doutes?
Non. Elle avait beaucoup de posters de joueurs dans sa chambre. Je la vois tout auréolée d'une lumière blanche, tenant un ballon, habillée de ses shorts et maillots de footballeur dont elle raffolait. Mais je pouvais pas m'imaginer qu'elle jouait. Elle aussi. C'était une fille.
Une fille pas comme les autres. À chaque fois qu'on allait affronter une autre équipe, elle se déguisait en garçon.
Se déguisait en garçon? Ouais, ça lui ressemble.
Elle courait plus vite que nous tous.
Ah ouais, elle a toujours lutté pour être première en tout.
Elle avait une force qui nous étonnait. Ah, au fait, ça me revient.
Quoi?
On a de l'argent?
Oui, tout le monde a de l'argent ces derniers temps. On fait des fêtes à gauche, à droite, on se donne des plaisirs.
Je parle de l'argent que nous avons gardé, Bella et moi.
Je veux pas entendre ça.
Mais tu veux que je te parle de Bella quand même?
Oui, mais ça c'est du vol ce que vous avez fait.
On le faisait pour venir au secours de nos mamans.
Chut!
Bon, de toute façon, c'est Bella qui gardait le carnet.
La fille place un doigt sur les lèvres du garçon. Elle s'approche pour l'embrasser, mais le garçon s'écarte.
Tu veux plus?
Tu n'as que 14 ans.
Et toi, 18 ans? Est-ce que t'as pas l'impression d'avoir grandi plus vite que ton âge?
Ouais, j'ai l'impression d'avoir 40 ans.
Oh, 40 ans, non, c'est trop!
Le garçon enlace la fille.
Et toi, tu as quel âge?
Moi, j'ai 25 ans. Non, 30 ans!
Si tu avais 30 ans, je te toucherais sans m'arrêter.
Eric!
Oh, quoi, Eric?
T'as vu comment mes parents ont déserté leur soirée de mariage? Je les ai retrouvés tous les deux dans la maison en train de pleurer. Et j'ai pas voulu les déranger. Et là, Eric doit être perdu, je dois le rejoindre.
Elle court.
Attends. Tu sais, ma mère a brûlé une de ses boutiques.
Oh! Mais tu crois qu'elle va brûler les autres aussi?
Je ne sais pas.
Je crains que mes parents brûlent aussi la maison.
Si ça peut leur faire du bien comme à ma mère.
Montre-moi comment elle courait, Bella.
C'était sur le terrain.
Et si tu cours pas, moi je vais te montrer comment elle courait. J'ai un peu de son sang en moi.
On les entend courir et rire.
Clémence Boissé, Pierre Lefebvre, Adrien, Sabine Pacora, Tadier Touéné et Limia Vitte sous la direction d'Armel Roussel. Dans un instant d'éclat de l'autrice congolaise Pierrette Mondaco qui a pu venir au Festival d'Avignon grâce à l'Institut français de Brazzaville. Ça va le monde, coordination artistique et présentation Pascal Paradou, coordination technique Benjamin Avayou, captation et réalisation Alice Ménard et Nicolas Benita. Un cycle de lecture à réécouter sur RFI.fr et sur la plateforme de podcast Pure Radio. La semaine prochaine, dernière lecture de notre cycle avignonnais. Soyez au rendez-vous.